France Musique. Musicopolis. Pianopolis, chapitre 1. Paris, capitale du piano au 19e siècle. La postérité n'a pas conservé le nom de celui ou celle qui a inventé le mot Pianopolis, la ville du piano. On ne connaît pas non plus la date de cette invention. Tant pis. Mais ce qui est certain, c'est que Paris mérite ce titre dès les années 20 du 19e siècle. C'est en effet vers Paris que converge à cette époque tout ce qui, dans le monde entier, a trait au piano. Facteur, compositeur, éditeur, mélomane et bien sûr, pianiste, professionnel et amateur. C'est l'histoire de cette grande capitale que Musicopolis vous racontera pendant 5 émissions. Les pianos, les pianistes et toute la société parisienne tournée vers le piano. Depuis la fin du XVIIIe siècle, Paris a connu de nombreux bouleversements. La Révolution et ses guerres, l'émigration des aristocrates, l'Empire, les guerres napoléoniennes, la Restauration, le retour des aristocrates. Les années 1820 sont déjà une période un peu plus calme et propice au développement de la bourgeoisie. Un peu les années folles du XIXe siècle, durant lesquelles les jeunes artistes sont en train de se forger une personnalité. Tout bouge, le théâtre, l'opéra, la poésie, la littérature, la musique. Les Trois Glorieuses, en juillet 1830, mettent aux manettes de la France un roi des Français libéral, Louis-Philippe, qui veut se tenir, dit-il, dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. C'est la bourgeoisie financière et industrielle qui va profiter de son arrivée. Comme le dit le docteur Véron, lorsqu'il pose sa candidature pour devenir directeur de l'Opéra de Paris, la Révolution de juillet est le triomphe de la bourgeoisie, et cette bourgeoisie victorieuse tiendra à trôner, à s'amuser. Véron affirme que si les loges sont remplies par une société élégante et rassurée, le succès et les recettes seront au rendez-vous et les étrangers y verront un démenti aux émeutes. la France, malgré ou à cause de ces révolutions, et bien que ses gouvernements aient tout de même à cœur de conserver l'ordre, attire beaucoup de citoyens européens dont les pays ont des régimes plus sévères ou des conditions économiques moins favorables. Les Allemands sont les plus nombreux à s'installer à Paris. D'une part des artisans, d'autre part des intellectuels et des artistes, comme Henri Heine ou Giacomo Meyerbeer. Certains réunissent même les deux cordes à leur arc. On peut remarquer que plusieurs facteurs en activité à Paris, Pleyel, Hertz et Papp, sont d'origine allemande. Des Allemands de Paris sont des artisans, des facteurs de piano et des poètes, les Italiens, eux, sont pour beaucoup des chanteurs. Ils sont venus nombreux, déjà sous l'Ancien Régime et encore sous Napoléon, qui avait une prédilection pour le chant italien. Les Spontini, Paër, Paisiello et autres Cherubini ont été les bienvenus. Ensuite, sous la Restauration, dès 1824, Rossini, lui aussi, vient prendre la direction du théâtre italien. Théâtres de Paris attirent le public. Sur le boulevard du Temple, un grand boulevard dégagé qui borde les quartiers du centre de Paris, on passe devant les délassements comiques, les funambules, la gaieté, les folies dramatiques, le théâtre du Cirque Olympique, le théâtre de la Porte Saint-Martin. Dans plusieurs de ces salles, on joue de préférence des mélodrames, pleins d'histoires pathétiques, de grands sentiments et de situations affreuses, de meurtres et d'assassinats. Pour cette raison, on l'appelle le boulevard du crime, celui que Marcel Carné décrit dans Les Enfants du Paradis.
Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment ?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre ?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors ?
Alors, au revoir. Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Sur le boulevard du crime se presse la foule des Parisiens et des étrangers. Un monde tout à fait mélangé, où les plus riches côtoient les plus pauvres, et où les places très peu chères, tout en haut des salles, au paradis, permettent même au public populaire d'avoir accès au divertissement. Un peu plus loin vers l'ouest, on trouve les deux grands théâtres lyriques, la salle Ventadour, qui accueille les Italiens pendant qu'on reconstruit la salle Favart, et la salle Le Pelletier, où on donne le grand opéra. Plus au sud, vers le Palais Royal, la salle Richelieu, siège de la Comédie Française. C'est là qu'a lieu en février 1830, quelques mois à peine avant la Révolution, la création d'Hernani de Victor Hugo, qui sonne le rappel des romantiques. En décembre, à peine plus au nord, dans la salle du Conservatoire, c'est la première de la Symphonie fantastique de Berlioz. À Paris, en 1830, les artistes font leur révolution. Pendant que le théâtre français donne Hernani de Victor Hugo et que l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire fait entendre la Symphonie fantastique de Berlioz, Eugène Delacroix peint une grande toile qu'il intitule 28 juillet, mais qu'il renommera La liberté guidant le peuple lorsqu'elle sera présentée au public l'année suivante au Salon. À partir de cette date, en même temps que Louis-Philippe s'installe sur le trône, la génération romantique est en place. Et comme le dira bientôt Franz Liszt, Paris est aujourd'hui le centre intellectuel du monde. Paris impose à l'Europe attardée ses révolutions et ses modes. Au romantisme des années 1830, au basculement de toutes les règles de l'art classique, correspond aussi un nouvel univers sonore. Certes, ce qu'on entend dans les rues de Paris n'a guère changé depuis le XVIIIe siècle. Il y a toujours les mêmes embarras de gens et de chevaux, les mêmes brouhahas, les mêmes cris d'animaux et d'humains, les chants d'oiseaux. Mais dans le domaine musical, le public et les artistes de la nouvelle génération romantique ont un nouvel idéal sonore. Thank you. C'est toute une évolution sonore qui a lieu depuis la fin de l'Ancien Régime dans les instruments à clavier. L'idée était de pouvoir nuancer son jeu, comme on le faisait à l'orchestre, et de pouvoir passer progressivement du piano au forte, c'est-à-dire du doux au fort. On avait d'abord inventé le clavicorde, mais c'était un tout petit instrument avec un tout petit son qui ne permettait pas de se faire entendre au-delà de quelques mètres. Les facteurs essayent donc durant le XVIIIe siècle de mettre au point un instrument qu'ils appellent piano forte, puisqu'il peut produire, sur le même clavier et sans changer de jeu, des sons piano et des sons forte. Vers la fin des années 1780, il y a déjà des modèles assez au point. On est ici à la fin de l'Ancien Régime et l'air « Ça ira » de Balbastre est joué sur un pianoforte fabriqué dans les ateliers de Pascal Tasquin en 1788. Vous avouerez que le son n'est pas si différent de celui d'un clavecin qu'on pouvait entendre à la même époque. À la fin des années 1780, l'idéal sonore des instruments à clavier est encore assez métallique. Et ce n'est pas vraiment le timbre qui distingue le clavecin du pianoforte. Puis peu à peu, les facteurs font évoluer l'instrument vers plus de puissance, vers un timbre plus chaud et plus rond, et davantage de résonance. Toute l'Europe est sur le coup, et on travaille d'arrache-pied aussi bien à Vienne qu'à Londres, à Hambourg ou à Paris. Il y a beaucoup de concurrence et d'émulation entre les nombreux ateliers. Sébastien Erard, parti pour l'Angleterre en 1792, en revient 4 ans plus tard et va faire désormais de nombreux allers-retours pour voir et entendre comment évolue la facture. À Paris, le nombre de facteurs de pianoforte augmente de plus en plus. Ils sont 24 en 1805, 39 en 1820 et 90 en 1831. Et bien sûr, s'il y a autant de pianos à vendre, c'est qu'il y a du monde pour les acheter et du monde pour en jouer. Le nombre de pianistes augmente de manière exponentielle. Pour les futurs professionnels, le tout nouveau conservatoire de musique a ouvert à Paris en 1795. Le dernier concours de clavecin a lieu en 1797 et le nombre de classes de piano est arrivé à 12 en quelques années. Cherubini, le directeur, est obligé de ramener ce nombre à 4 pour le proportionner avec les autres instruments. Pour les élèves, on écrit des méthodes. C'est ce que fait Hélène de Mongeroux, première professeure de piano de première classe, qui publie à partir de 1812 un cours complet d'enseignement du pianoforte grâce auquel seront formées des générations de pianistes. Thank you. fois que les facteurs de piano sont là, et aussi les professeurs, les apprentis pianistes, le public, tout est prêt pour l'avènement de cette Pianopolis, la cité du piano, avec ses virtuoses et ses compositeurs, dont nous développerons les différents aspects dans les prochaines émissions. Frédéric Chopin, les variations sur l'Acidarem Lamano, opus 2, le final, alla polacca. Nelson Görner sur un piano Erard de 1849 avec l'orchestre du XVIIIe siècle dirigé par Franz Bruggen. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Cédric Châtelus pour le mixage, Hortense Leblouc pour les recherches, Clément Diaz pour le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.